VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Claire Morin-Gibourg.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du vendredi 27 mai 2016. Au sommaire ce soir.
Guinée-Bissau, à peine nommé Premier ministre, Bassirou Dia est vivement contesté. Le PAIGC a même promis de former un gouvernement parallèle.
C'est que sur la Guinée-Bissau, on va voir deux gouvernements. Un légitime dirigé par Carlos Correa et un légitime nommé par le président de la République.
Intensification de la campagne militaire de la coalition contre les djihadistes en Syrie et en Irak.
Barack Obama à Hiroshima, un rendez-vous avec l'histoire et un plaidoyer contre les armes nucléaires.
L'Afrique et le Cameroun en particulier pleurent le départ d'une grande artiste.
Pendant que j'ai la première femme guitariste camerounaise, je suis du village qui allait tout le temps écouter la chorale.
Bref, coup d'œil sur la vie et la carrière d'Anne-Marie Nzié en magazine.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal.
Nous ouvrons en Guinée-Bissau. Après deux semaines sans chef de gouvernement, le président José Mario Vaz a finalement nommé Bassirou Dia comme premier ministre. Mais les membres du gouvernement coréen ne reconnaissent pas la décision du président de les démettre. Et ils ont passé la nuit dans leur bureau, entourés par la police anti-émeute et la force de la CDAO. Le président Vaz dit vouloir s'appuyer sur une nouvelle majorité constituée des 41 députés du Parti de Rénovation Sociale, PRS, et des 15 députés frondeurs du PIGC, le parti au pouvoir, soit 56 sièges sur les 102 au Parlement. Mais le PIGC promet de former un gouvernement parallèle si le chef de l'État ne revient pas sur sa décision. Plus de détails à Bissau avec Noah Mankali.
Bassirou Dia, l'un des 15 membres expulsés du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée du Cap-Vert, PAGC, remplace ainsi Carlos Correa, l'un des vétérans de la lutte de libération nationale, qui a également été nommé à ce poste en octobre de l'année dernière après que la Cour suprême de justice, à travers son accord numéro 1/2015, est considéré inconstitutionnel le gouvernement d'alors dirigé par Bassirou Dia. Quelques heures avant la publication de ce décret présidentiel qui nomme Bassirou Dia, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée du Cap-Vert, PAGC, a mis en garde contre la possibilité que le pays ait deux gouvernements si le président de la République nommait un premier ministre inconstitutionnel. Bassirou Dia est né le 1er janvier 1973. Sa nomination a été dénoncée par le PAGC comme un coup d'État constitutionnel. Noah Mankali, Bissau, VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, le conducteur d'un des véhicules qui a servi dans l'attaque de Grand Bassam le 13 mars dernier est en train d'être interrogé. Selon un communiqué des services sécuritaires ivoiriens, ce véhicule a déjà été respectivement au Burkina Faso et au Mali aux périodes où ces pays ont subi des attaques terroristes. Le 27 mars, deux Maliens qui ont participé à l'attentat avaient été arrêtés à Gossi, à Goundam, dans le nord du Mali.
En République démocratique du Congo, l'arrêt de la Cour constitutionnelle continue de faire des vagues. Cet arrêt autorise Joseph Kabila à se maintenir au pouvoir si la présidentielle n'est pas organisée d'ici novembre. Et l'arrêt a été dénoncé par Wolfgang Manig, ambassadeur d'Allemagne en RDC, lors d'une conférence de presse. Ce n'est certainement pas un nouveau mandat qui est décrété par la Cour, a-t-il précisé.
L'épidémie de fièvre jaune qui sévit en Angola depuis décembre et qui a tué plus de 300 personnes s'est propagée vers la République démocratique du Congo, le Kenya et la Chine. L'Organisation mondiale de la santé fait part de son inquiétude en raison de la transmission locale persistante à Luanda, alors que plus de 7 millions de personnes ont été vaccinées. La dernière épidémie d'ampleur en Angola remonte à 1986.
En Ouganda, 5 hommes ont été condamnés à la réclusion à perpétuité et 2 autres à 50 ans de prison pour le double attentat qui avait fait 76 morts à Kampala en 2010. Le Shebab somalien affilié à Al-Qaïda avait revendiqué l'attaque. Idriss Fall.
Le juge Alphonse Owini Dolo de la haute cour de Kampala a annoncé sa décision. La peine de mort prévue par le code pénal ougandais n'a pas été appliquée depuis des années. Les 7 condamnés à perpétuité, dont le cerveau du groupe, ont été reconnus coupables hier de terrorisme, meurtre et tentative de meurtre. 5 autres hommes ont été acquittés et un 13e a été condamné à des travaux d'intérêt général pour des charges mineures. Le 11 juin 2010, en pleine retransmission de la finale de la Coupe du monde de football entre les Pays-Bas et l'Espagne, des engins explosifs avaient avait ravagé un bar et un restaurant de Kampala, faisant 76 morts. Ce double attentat était la première action d'envergure des Shabab en dehors de la Somalie. D'après ce groupe djihadiste, c'était en représailles au déploiement de troupes ougandaises en Somalie. Après Kampala, les Shabab ont perpétré une série d'attaques meurtrières au Kenya voisin, dont l'armée est aussi présente en Somalie.
En Afrique du Sud, le groupe public audiovisuel SABC a annoncé qu'il ne diffuserait plus d'images de manifestations violentes. Pour l'opposition, c'est une décision qui s'apparente à de la censure à l'approche des élections municipales du 3 août.
Les autorités sud-soudanaises torturent leurs prisonniers selon l'ONG Amnesty International. Selon plusieurs dizaines de témoignages, beaucoup de détenus, la plupart des civils, accusés de liens avec l'opposition ou avec des groupes rebelles, sont morts suite à ces traitements inhumains. Ils sont entassés dans des conteneurs en métal sous une chaleur brûlante, recevant de la nourriture seulement une à deux fois par semaine.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Et le reste de l'actualité dans le monde, le président américain s'est recueilli aujourd'hui à Hiroshima lors d'une visite historique chargée en symboles. Barack Obama a profité de l'occasion pour appeler à construire un monde sans armes nucléaires. Jacques Aristide.
Un discours prononcé dans un impressionnant silence.
71 years ago, on a bright, cloudless morning.
Il y a 71 ans, la mort est tombée du ciel. Des mots remplis d'émotion de Barack Obama, premier président américain en exercice, a visité le parc de la paix à Hiroshima, ville japonaise anéantie par une bombe atomique américaine en 1945, ce qui allait marquer la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le président a plaidé pour un monde sans armes nucléaires, tout en reconnaissant que cela n'arriverait probablement pas de son vivant. Après son allocution, il est allé longuement serrer la main d'un survivant. Auparavant, le visage grave, il avait déposé une couronne de fleurs devant le cénotaphe du parc du Mémorial de la Paix. Barack Obama avait toutefois averti qu'il n'effectuait pas ce voyage pour porter un jugement sur la décision prise par son lointain prédécesseur, Harry Truman, ou présenter des excuses. En réaction, la Chine a mis en garde contre une vision biaisée de l'histoire. Elle redoute que le Japon, en insistant sur le traumatisme de Hiroshima et Nagasaki, tente de faire oublier sa cruauté durant la guerre.
En Syrie, la coalition internationale veut en découdre avec le groupe État islamique. Depuis mardi, elle a intensifié ses frappes pour appuyer un assaut terrestre majeur des forces arabo-kurdes. Éric Manirakiza.
Au total, 150 raids ont été menés contre le groupe État islamique en trois jours. Cette offensive aérienne accompagne un assaut terrestre majeur de forces arabo-kurdes. Le Pentagone précise que des forces spéciales américaines soutiennent au sol les forces démocratiques syriennes dans un rôle de conseil d'assistance. Ceci leur a permis de reprendre mercredi aux djihadistes le village de Fatsa dans le nord de la province de Raqqa. Depuis mardi, des civils sont pris au piège des combats. Environ 300 000 personnes vivent dans la ville de Raqqa. Les djihadistes utilisent les civils comme boucliers humains, ont déclaré les forces démocratiques syriennes. Mais des passeurs parviennent à faire quitter des habitants de la ville, moyennant qu'entre 100 dollars par tête. L'ONU doit débattre aujourd'hui du désastre humanitaire en Syrie et en Irak, où quelques 50 000 civils sont bloqués à Fallujah et manquent de nourriture et de médicaments.
D'ailleurs, un effort pour évacuer les civils de Fallujah est en cours. Nos forces ont évacué 460 personnes, des femmes et des enfants pour la plupart, a déclaré le capitaine de police Raed Shaker Jardat. Un responsable du conseil norvégien pour les réfugiés a indiqué que la plupart des familles qui avaient réussi à s'échapper provenaient de secteurs autour de Fallujah. L'ONU avait indiqué jeudi que 800 personnes avaient réussi à fuir Fallujah depuis le début de l'offensive, estimant que 50 000 civils y vivaient encore. Une dernière dépêche nous apprend que le commandant du groupe État islamique à Fallujah a été tué par une frappe aérienne américaine.
La tragédie des migrants en quête d'une vie meilleure en Europe se poursuit en Méditerranée. Après les deux naufrages de mercredi et jeudi matin qui ont fait au moins une centaine de morts, on signale aujourd'hui que des dizaines de migrants sont portés disparus après le naufrage d'un bateau surchargé au large de la Libye. Les gardes-côtes italiens ont lancé au navire après un appel de détresse évoquant 350 personnes à la mer, tandis que la marine italienne a annoncé à l'AFP avoir secouru 130 personnes de ce naufrage et poursuit les recherches. En 4 jours, plus de 10 000 migrants ont été secourus au large de la Libye. Jusqu'à mercredi, le HCR avait dénombré plus de 37 785 personnes arrivées en Italie depuis le début de l'année.
La Russie pourrait prolonger son embargo alimentaire contre les Européens en cas de maintien des sanctions prises à l'encontre de Moscou à cause de l'annexion de la Crimée et de la crise ukrainienne. Ce vendredi, le gouvernement russe a menacé de prolonger l'embargo jusqu'à la fin de l'année prochaine. L'Union européenne se prépare à de difficiles discussions sur la reconduction des sanctions qui, selon Berlin, pourraient être levées graduellement en fonction de l'évolution de la situation sur le terrain.
Alors que s'approchent les Jeux Olympiques de Rio, la question sécuritaire devient de plus en plus préoccupante. Selon l'ONG Forum de sécurité publique, la police brésilienne a enregistré une agression sexuelle toutes les 11 minutes en 2014. Le dernier cas qui défraie la chronique, c'est le viol d'une adolescente brésilienne de 16 ans par une trentaine d'hommes à Rio de Janeiro. Une vidéo de l'acte a été postée sur les réseaux sociaux cette semaine, suscitant une vague d'indignation dans le pays. La présidence dénonce un crime barbare. La police de Rio a affirmé avoir identifié 4 personnes et lancé un mandat d'arrêt à leur encontre. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et sur voaafrique.com.
Et nous passons tout de suite à la page économique. En bref, bien sûr, avec Nathalie Barge.
En Côte d'Ivoire, le directeur général du Conseil coton Anacard, Malamine Sanogo, et son adjoint ont été suspendus suite à une affaire de détournement de 5 milliards de francs CFA dans la filière, rapporte Financial Afrique. Le Conseil opère des prélèvements qui ont quadruplé en une année, passant de 9,83 francs par kilo de noix fin 2014 à 45 francs cette année. Ces taxes sont dénoncées par les paysans qui les jugent trop importantes pour un prix d'achat fixé à 350 francs CFA le kilo. Le FMI a salué les bonnes performances macroéconomiques du Sénégal et les progrès dans la mise en œuvre des réformes de l'instrument de soutien à la politique économique, indique le gouvernement. Les résultats montrent une croissance de 6,5% pour la première fois au cours des 12 dernières années. Par ailleurs, le FMI a encouragé Dakar à renforcer la gestion de la dette et il a relevé l'impact positif de la réforme de Sénégal Airlines. Les cours du cacao sont montés en début de semaine avant de décliner dès mardi à cause d'un déficit de production moindre qu'espéré. Parmi les causes à l'origine de la mauvaise récolte figure la sécheresse due au phénomène El Niño et au vent fort de l'Harmattan en Afrique de l'Ouest, la principale région de production mondiale. Les chiffres mettent en relief un déficit de production de 140 000 tonnes.
Maintenant, la page sport, ce soir avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Claire.
Série de matchs amicaux en vue de préparer les éliminatoires de la CAN 2017.
Oui, ce vendredi, le Kenya affronte le Soudan à Nairobi et le Togo à Lomé qui accueille la Zambie en France, à Rouen. Plus précisément, un match amical entre le Nigeria et le Mali à suivre également à Tanger au Maroc. Les Lions de l'Atlas contre les Diables Rouges du Congo. Et à suivre samedi à Kigali, le Sénégal en déplacement chez le Rwanda et le Gabon face à la Mauritanie à Cornellas et en Espagne. Dimanche, le Botswana contre le Malawi et le Kenya à Nairobi face à la Tanzanie.
La grande finale de la Ligue des Champions, c'est demain à Milan.
Une chose est sûre, Claire, la Ligue des Champions retrouvera Madrid à l'issue de cette finale entre le Real de Cristiano Ronaldo et l'Atlético façonné par Diego Simeone. C'est un remake de celle de 2014. La finale de San Siro sera aussi un duel d'entraîneurs entre l'habitué Diego Simeone et le débutant Zidane.
Mourinho à Manchester United ?
Les clubs géants sont pour les meilleurs entraîneurs, a-t-il lancé avec son sens de la provocation habituelle. Le Portugais est de retour lors de cette conférence de presse. José Mourinho a été officiellement nommé ce vendredi entraîneur de Manchester United. Un mariage d'amour autant que de raison, tant chacun a besoin de l'autre pour se reconstruire. Le charismatique technicien, âgé de 53 ans, sans club depuis son éviction de Chelsea en décembre, a signé pour 3 saisons avec une 4e en option.
Enfin, quelques résultats du championnat de basket nord-américain, la NBA.
Golden State reprend espoir. Le champion en titre NBA a réduit le score à 3 victoires à 2 en faveur d'Oklahoma City dans le match numéro 5 hier à Oakland. Victoire 120 à 111. Les Warriors maintenant doivent s'imposer à Oklahoma City pour empêcher le Thunder d'empocher son billet pour la finale NBA.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Claire Morin-Gibour et chérubin Gabidor Sil, toujours en votre compagnie, place au dossier du jour. Et première escale, Gabi, la RDC.
L'opposition congolaise avait appelé hier à une journée de manifestation pour dénoncer l'arrêt de la Cour constitutionnelle autorisant le président Joseph Kabila à rester au pouvoir si la présidentielle n'a pas lieu d'ici la fin de l'année. Qu'est-ce qui risque de se passer d'ici le 19 décembre, date à laquelle M. Kabila devrait passer le relais? Idriss Fall a joint Georges Berthe-Guézan du GRIP, le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité, basé à Bruxelles.
La tension va continuer à monter, disons jusqu'au mois de décembre, jusqu'à la date quand le nouveau président aurait dû prendre ses fonctions. Il va y avoir, à mon avis, un crescendo. Je crains qu'il y aura de plus en plus de violence.
Ça n'apportera pas de solution parce que des élections ne sont pas possibles avant le 19 novembre.
Parce que le pouvoir s'est arrangé pour qu'elles soient impossibles. En ne les préparant pas à temps. On parle d'un délai de 2 ou 3 ans sans possibilité de faire de nouvelles élections, en violation de la Constitution, évidemment. Que de toute façon, la CENI n'a nullement pas fait ce qu'elle devait faire jusqu'à présent. Les dernières élections, donc de 2011, se sont passées sans gros soutien financier de la communauté internationale et elles ont eu lieu dans les délais prescrits. Et pourtant, depuis 2011, le PIB de la RDC a considérablement augmenté. Des prétextes que cherchent les autorités pour ne pas organiser les élections, pour les organiser le plus tard possible.
Et la Cour constitutionnelle a donné son avis en disant que M. Kabila peut rester au-delà des termes de son mandat.
Oui, c'est l'avis de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle au Burundi a rendu un avis similaire concernant la réélection pour un troisième mandat de M. Nkurunziza. Les cours constitutionnelles, ça dépend qui les compose. Si ce sont des proches du pouvoir, ils vont interpréter la Constitution en fonction des intérêts du pouvoir en place.
Est-ce qu'on va vers des affrontements dans un pays où les rébellions sont récurrentes?
Moi, je crains surtout que la situation dans l'ex-province du Katanga s'embrase. Joseph Kabila et beaucoup de gens dans son entourage sont considérés comme des Katangais, mais également plusieurs ténors de l'opposition, notamment Moïse Katumbi. Il y a de nombreux acteurs qui pourraient choisir la violence ou la lutte armée pour défendre leurs intérêts. Et bien entendu, il y a l'armée, en particulier la garde républicaine, qui est déployé en force avec de l'armement lourd dans la province. Dans l'autre camp, il y a des groupes armés, notamment les Katakatanga, qui n'ont plus beaucoup parlé d'eux depuis plus d'un an, mais qui pourraient revenir à la surface. Un des principaux partis au Katanga, l'UNAFEC, qui était avant pour Kabila, qui maintenant a choisi l'opposition, dont la jeunesse est organisée en milice, plus ou moins. Du côté de Moïse Katumbi, il y a le club de supporters du TP Mazembe, le fameux club de football champion d'Afrique, dont les supporters sont aussi très bien organisés, qui serait facile d'armer. Il y a le mystère qui entoure John Numbi, l'ancien chef de la police, qui a été suspendu après l'assassinat du défenseur des droits de l'homme, Floribert Chebeya, qui lui dispose d'armes, serait derrière les Katakatanga, et on dit qu'il serait maintenant fâché contre le président Kabila parce qu'il n'a pas été réhabilité, et donc lui aussi pourrait se joindre à une contestation violente. Je vous rappelle, le Katanga, il y a des antécédents sécessionnistes, et avec toutes ces richesses minières, je crois que c'est là que les choses vont basculer dans un sens ou dans l'autre.
Georges Berthe-Guézan du GRIP, le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité, basé à Bruxelles.
VOA Afrique en RDC à Lubumbashi sur 102.8 FM.
La route tue énormément au Burkina Faso, nous dit notre correspondant sur place. Et le dernier accident en date, qui a fait 24 morts et plusieurs dizaines de blessés, a poussé le gouvernement burkinabé à se pencher sur la question en prenant des mesures. Mais quelles sont-elles et qu'en pensent les Burkinabés? De Ouagadougou, au reportage de Zoumana Wanogo.
Suite à l'accident de route qui a fait au moins 24 morts et une trentaine de blessés graves, le gouvernement burkinabé a pris des mesures pour réduire au maximum les risques d'accidents mortels sur les routes du Faso. Le ministre de l'Intérieur, Simon Compaoré, nous livre les différentes mesures prises.
Tout chauffeur qui va être pris en flagrant délit d'excès de vitesse, on va arrêter ce chauffeur-là, lui retirer son permis, faire la procédure et il va être frappé d'indignité dans la conduite des véhicules du genre. L'autre mesure, c'est que pour éviter effectivement que certains ne restent sourds par rapport à la limitation de la vitesse, ils ont un mois pour plomber la vitesse. Transport mixte, c'est terminé. Tout véhicule à partir d'aujourd'hui qui roule sans avoir des éléments nécessaires à bord pour qu'en cas de panne, on puisse faire une signalisation correcte. Si on vous arrête, vous êtes garé. La sanction tombe. Il nous est revenu qu'il y a des sociétés qui priment leurs chauffeurs, qui, par exemple, entre Ouaga et Bobo, font deux ou trois fois dans la journée. Là également, il ne sera plus toléré qu'on dépasse les heures conventionnelles qui ont été arrêtées et connues des sociétés de transport. Maintenant, tout le tort n'incombe pas aux sociétés de transport. Il y a la défaillance au niveau des contrôles aussi, la complaisance au niveau de certains agents. S'il y a des défaillances, les gens seront sanctionnés.
Nous avons demandé à des Burkinabés ce qu'ils pensent de ces mesures suivantes.
Ça a eu des engrais. Quand on a dit que les cars seront plombés, qu'on vérifie effectivement à partir même de la sortie des gars, est-ce que les cars vraiment sont plombés pour éviter la corruption.
C'est un domaine assez sensible, les transports au Burkina. Parce que c'est, j'ai pas envie de dire que c'est un secteur informel, mais c'est tout quoi. Eux là, c'est pas une histoire de sécurité. Non, c'est le gain. Donc quand on se dit péremptoirement, on crie le transport mixte, c'est terminé. Mais attendez là. C'est trop facile.
Ifizou Tiamde, est-ce que le gouvernement sera très exigeant sur lui-même pour pouvoir appliquer ces mesures? C'est surtout ça qui nous inquiète.
Une des mesures concerne le plombage des véhicules. Et voici ce que nous a confié Aboubacar Traoré. Il est chauffeur de gros porteurs.
On dit qu'on va plomber un véhicule qui est déjà en circulation. Techniquement, ça va être difficile qu'un véhicule qui est déjà en circulation, qu'on vient plomber. On va plomber comment? Puisque c'est sur l'accélérateur qu'on va plomber. Et si on fait ça de façon artisanale, le chauffeur, s'il veut, il peut le déplomber. Moi, je pense.
Zoumana Wounougou, Ouadougou, VOA Afrique.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, Burkina Faso, Ouagadougou, sur 102.4 FM.
Les recrutements en ligne font leur bonhomme de chemin en Afrique, avec de plus en plus de start-up qui se lancent dans ce secteur. En Algérie, Emploitic a lancé un site internet, emploitic.com, qui se distingue grâce à ses multiples annonces en ligne et la possibilité qu'il donne aux candidats de publier leur CV. John Lennon s'est entretenu avec Lloyd Jaffer, fondateur d'emploitic.com, qui évoque d'abord le climat dans le secteur des TIC.
C'est un secteur qui est très très porteur, hein. Donc je pense comme partout au monde, les ingénieurs en nouvelles technologies, développeurs, architectes réseaux, n'ont pas de mal à trouver un emploi. Donc je dirais que sur ce segment-là, il y a plutôt une tension, ce sont les entreprises qui ont du mal à recruter.
Alors, vous êtes une start-up, si je ne m'abuse. Quels sont les problèmes auxquels des entreprises comme la vôtre font face en Afrique et en Algérie particulièrement?
Bon, nous, c'est vrai que nous sommes une start-up du moins dans l'esprit, parce que l'entreprise a été créée en 2006. Et cet esprit de start-up, de tout remettre en question, d'innovation, nous anime toujours. Après, les problèmes que nous vivons dans notre marché, il y a deux types de problèmes. Il y a des problèmes inhérents aux startups en général partout dans le monde. C'est-à-dire que des besoins de financement qui ne sont pas toujours adaptés pour ce type d'entreprise. Et puis des besoins de recrutement très importants parce qu'on recrute beaucoup et vite. Donc ça, c'est les problèmes liés à cette position de startup. Après, sur le marché algérien, nous, depuis 2006, bon, l'entreprise évolue très bien. Nous avons une croissance à deux chiffres. Et des fois, nous avons quelques difficultés, comme toutes les entreprises, sur quelques lourdeurs administratives. Mais disons que les principaux problèmes sont plutôt ceux liés aux startups que ceux liés au marché. C'est-à-dire, des fois, du moins c'est notre problème au lancement, sur notre capacité à financer notre croissance.
Quel est le niveau des candidats qui postulent chez vous?
Aujourd'hui, nous arrivons à répondre, du moins le marché, les candidats arrivent à répondre à la demande des entreprises. 70% des candidats qui sont inscrits sur notre site, ce sont des personnes qui travaillent déjà et qui cherchent une mobilité professionnelle.
À votre avis, que faudra-t-il faire pour résorber le problème du chômage en Afrique de manière générale ?
Ce serait peut-être pas la meilleure personne pour donner un avis sur une question macroéconomique comme ça, de cet ordre-là. Mais en tout cas, nous, ce que nous remarquons, avec nos clients, mais avec nous-mêmes, quand les initiatives sont libérées, quand on crée le marché des idées et du savoir, on ne peut que gagner en emploi et en création de richesse. Donc moi, en tant qu'entrepreneur, c'est ma vision de la création de l'emploi.
Un conseil aux jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat comme vous ?
Un conseil ne serait pas suffisant. Nous, ce qu'on aimerait leur dire, c'est d'abord, il faut croire en son idée, être motivé, avoir une sorte d'abnégation, et ensuite s'entourer de personnes compétentes. Et je dirais que les trois conseils, c'est l'équipe. C'est l'équipe qui fait l'entreprise.
Loé Jaffe, fondateur d'Emploi TIC.com en Algérie.
Le Cameroun et le continent africain pleurent la mort d'une grande artiste. Plus de 60 ans de carrière pour celle qu'on appelle la voix d'or du Cameroun. Décédée le mardi 24 mai à l'hôpital de Yaoundé des suites d'une maladie, Anne-Marie Nzier laisse derrière elle un héritage sans précédent. Maïli Segel adjoint Cyril Bojiko de Radio Balafon au Cameroun pour nous parler de ce monument de la musique africaine.
Anne-Marie Nzier, la première femme guitariste camerounaise, une jeune fille de village qui allait tout le temps écouter la chorale à Ludolf, à quelques centaines de kilomètres du Kébi, au sud du Cameroun. Lorsqu'un jour, elle entonna un couplet de la chanson, et puis elle se fit remarquer donc par le maître de chant qui dit, mais tiens, toi, la petite fille que je vois souvent à la fenêtre, tu chantes si bien, viens écouter la chorale. Anne-Marie Nzier fera le tour du monde, elle fera les plus grands festivals, elle fera Angoulême, elle fera le festival de Montréal, elle va jouer au Cameroun, elle va chanter Liberté, son titre phare qui a été un véritable hit au Cameroun sorti en 1984. On l'appelait la chanteuse du président de la République, parce qu'à chaque fois que le chef de l'État offre un grand gala à ses hôtes, Anne-Marie faisait partie du grand ensemble national. Comme décoration, elle aura effacé tous les tableaux du Cameroun au point d'obtenir la Légion d'honneur française. Il y a deux années, elle a eu le prix du Balafon d'honneur, organisé par ma chaîne de radio, Radio Balafon. À l'occasion des Balafon Music Awards, elle a eu le Balafon d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Et à ce jour-là, elle déclara que je chanterai jusqu'au jour de ma mort. D'ailleurs, elle avait dit « Je prendrai ma retraite dans la tombe ».
Qu'est-ce qu'elle représente pour le Cameroun et pour le continent africain ?
Manu Dibango a fait une déclaration. Il a dit, je cite, le Cameroun ne sera plus le même sans Anne-Marie Nzier. Il a totalement raison, parce que Anne-Marie Nzier était la mémé nationale, elle était la figure la plus emblématique de la musique camerounaise. D'abord, par sa riche et très longue carrière, elle a eu la plus longue carrière, et c'était la conseillère, elle avait l'oreille attentive. J'ai discuté encore avec l'un de ses guitaristes hier dans mon émission qui disait qu'Anne-Marie Nzier, c'est elle-même qui mimait les notes de ses guitares. Elle était extrêmement exigeante que lorsqu'elle n'avait pas la note qu'elle souhaitait, eh bien voilà, le disque ne pouvait pas continuer. À chaque fois qu'elle partageait la scène avec des jeunes artistes camerounais, notamment les artistes femmes, elle n'hésitait pas à leur donner des conseils sur les secrets de sa longévité dans le domaine. Elle n'hésitait pas à leur donner des conseils sur l'humilité. Donc Anne-Marie Nzier est immortelle. Elle est un monument pour le Cameroun et pour l'Afrique. Et c'est toute l'Afrique pleure. La doyenne de la chanson camerounaise, c'est une grosse tête pour le Cameroun, une grosse tête pour l'Afrique et pour le monde de la musique.
Quel est l'héritage qu'elle laisse derrière elle ?
Anne-Marie Nzier laisse à la postérité des chansons qui devraient être rééditées. Des chansons qui sont mythiques, qui sont restées historiques comme Liberté, comme Sarah, titre Liberté, l'hymne à l'indépendance, l'hymne à la liberté, l'hymne à l'émancipation de l'Afrique, l'hymne à l'autonomie. Il n'y a pas que ça, c'était la véritable reine du bikuti, parce qu'elle a été la toute première chanteuse à faire du bikuti, véritablement avec des guitares qui résonnent comme du balafon. Anne-Marie Nzier a créé ce note de guitare. Et on pouvait l'imaginer au Cameroun qu'on pouvait, à partir des guitares, ressortir les notes de balafon. Mais oui, Anne-Marie Nzier est parvenue à le faire. D'abord, un homme guitariste, auteur-compositeur, interprète, elle parvenait à mimer ses guitares de balafon, à faire ressortir le son du balafon à partir des guitares. C'était tout simplement extraordinaire.
Cyril Bojiko de Radio Balafon au Cameroun.
Salut les amis, ici votre gars Roger Montou de VOA Afrique. Retrouvez-moi la semaine prochaine en direct de Bamako au Mali. Les amis, RM Show sera diffusé en direct. Je serai là en personne avec les amis, les frères et sœurs maliens la semaine prochaine à Bamako. Appelez-nous au 001 202 619 3140 pour participer à l'émission et envoyez-nous vos SMS ou WhatsApp Viber au 001 703 350 37 31. Nous serons aussi en direct sur notre page Facebook VOA Afrique. RM Show en direct de Bamako, Mali. La semaine prochaine, ça va être chaud. Peace Africa.
C'est la fin de cette édition. On remercie Lionel Gaïma qui assurait la mise en onde avec l'assistance technique de Dan Crafton à la console. Présentation Claire Morin-Gibourg et Chérubin Gabi d'Orsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On maintient la conversation sur Facebook et n'oubliez pas de visiter notre site internet voaafrique.com pour plus d'infos 24 heures sur 24.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.